Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il n'y a pas énormément d'équipes qui nous a mis réellement en difficulté, mis à part Paris cette année dans le jeu où voilà, on a bu l'eau.
Alors on doit relever la tête de l'eau et avancer.
Même avec tout le respect que j'ai pour Caen, voilà, c'est une équipe qui est après bien sûr qui vole sur l'eau en ce moment.
Paris Saint-Germain, il court un petit peu sur l'eau pour le moment.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Avec Daniel Riolo et Stéphane Guy, notre invité France Bellassène. Parmi les voix qu'on a entendues, tu as travaillé avec certains de ces hommes-là ou pas, non?
Antoine Comboiré est un très bon ami. Moi, je suis amoureux d'Antoine. Ses conférences, dans son attitude.
C'est un autre client, effectivement, que Michel Azakarian, ça c'est sûr.
Ouais, ils sont très amis, les deux.
Oui, tout à fait.
Et pour la petite anecdote, ils étaient en train de jouer au golf ensemble quand Laurent Nicolin a appelé Michel.
Michel Azakarian joue aussi au golf.
Ouais.
Donc, il y a pas un entraîneur qui joue pas au golf en France aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a de moins en moins de journalistes qui ne jouent pas au golf aussi.
Mais non.
Et moi, je
m'y mettrais jamais.
La fleur est infestée par la mode du golf.
C'est la mode, mais.
Ça va être le paddle maintenant.
Ça a déjà commencé. Chacun son sport en même temps. Moi, j'en avais un depuis longtemps, j'en ai pas changé.
Est-ce que tu penses du paddle rapidement, Daniel?
Ça m'intéresse pas.
Voilà. Moi, j'adore, je suis fan.
Oui, mais c'est pour ceux qui veulent plus trop bouger. Moi, j'ai besoin de bouger.
Si on peut encore bouger.
Moi, je peux encore bouger.
Les joueuses de Chelsea de Lyon bougent encore puisqu'on joue une prolongation en quart de finale retour de Ligue des Champions. Anthony Reich.
Ouais, la prolongation qui vient de démarrer, 91e minute de jeu. C'est parti donc pour 2x15 minutes à Stamford Bridge grâce à ce but vraiment décisif pour l'instant de Vanessa Gilles, la défenseur canadienne à la 77e minute. Ça va être chaud jusqu'à la fin de cette prolongation.
Et ça peut faire les pénaux donc, on est d'accord.
Exactement.
J'ai l'impression de voir une excellente Wendy Renard ce soir, Anthony.
Ouais, ouais, très solide Wendy Renard, la capitaine qui a certainement maintenant à nouveau un objectif équipe de France.
Je l'avais vu belle, la frappe.
Elle était bien déclenchée, celle de Lindsay Horan, effectivement, la championne du monde américaine.
Merci, à tout à l'heure, Anthony, pour donc une éventuelle séance de tir au but. Alors, notre sujet, j'accueille d'abord Hamza Rahmani. Bonsoir, Hamza.
Bonsoir, messieurs.
Dans un look très années 80.
Bien. Bah écoute, je le prends comme un compliment.
Oui, tout à fait. Spécialiste du foot africain
à RMC. Il n'a pas dû les connaître. Hein.
Non, oui, je pense pas.
C'est le grand retour des 80s.
C'est très 80s, tout à fait. Bon, on peut décrire le style. Veste en jean assez courte. T-shirt court également, près du corps.
Ah non, voilà. époque que je n'ai pas connue, mais que j'aurais bien aimé connaître.
Tu connais très bien le foot africain, en revanche. Tu viens régulièrement.
Dans les années 90, milieu 90.
Voilà. Au mi-temps des années 90. On prend tous un coup de vieux, bien sûr. Notre sujet, comment l'Algérie et le Maroc arrivent à séduire de plus en plus jeunes les binationaux? Hamza, tu vas nous en parler, nous livrer quelques explications. Je rappelle, par exemple, la liste spectaculaire des dernières semaines concernant l'Algérie pour démarrer. Je parle de joueurs nés en France. Bouanani de Nice, 18 ans. Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton, 21 ans, qui rejoint l'Algérie. Jawed Adjam de Nantes, 20 ans. Farès Chaibi, également, qui rejoint l'Algérie du SC Bastia, 20 ans. Oussem Aouar, évidemment, 24 ans. On en parlait il y a quelques jours dans l'After. D'ailleurs, selon les infos de nos confrères algériens, Belmadi avance également sur le dossier Amine Gouiri. C'est pas fait.
Il est très bien avancé, le dossier.
Mais il est très bien avancé.
Si je devais parier.
Pouchkhi, c'est beaucoup moins avancé, visiblement, même si on a une intention de l'attirer vers la sélection algérienne.
Disons qu'il y a un championnat d'Europe espoir qui se profile pour certains de ces joueurs, notamment Amine Gouiri, et que derrière, potentiellement, il pourrait y avoir un changement.
Bon, Chaibi, c'est Toulouse. Est-ce que autant pour moi, messieurs? Bon, donc, réaction déjà, Gouiri. Qui a 23 ans choisirait l'Algérie peut-être à terme. Est-ce qu'il avait encore un espoir peut-être de caresser une sélection?
Je pense qu'il y a un véritable changement aujourd'hui dans les mentalités des joueurs qui peuvent être binationaux. Et c'est un peu logique. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon métier, on me demandait d'essayer d'aller en Afrique, de trouver certains joueurs pour les faire venir. Aujourd'hui, en fait, les joueurs qu'on a aujourd'hui dans le championnat de France, et même en équipe de France hein, aujourd'hui, ce sont souvent des enfants de parents qui sont venus de l'immigration. Et donc, c'est notre héritage à nous. Donc, aujourd'hui, les clubs français n'ont quasiment plus besoin d'aller chercher de joueurs en Afrique. Et donc, puisque aujourd'hui, c'est notre héritage, et Dieu sait qu'on a un sacré bel héritage quand on voit notre équipe de France et quand on voit nos équipes nationales de jeunes. Donc, après, il y a peut-être un moment, une certaine volonté de réussir dans l'équipe nationale, peut-être qui appartient à certaines origines. Et je pense que l'émancipation du Maroc aujourd'hui dans les différentes compétitions et on l'a vu encore dans les différents matchs amicaux qu'il y a eu ce week-end, fait que ça donne des idées à certains joueurs de dire bah finalement je vais peut-être aller dans mon équipe.
Parce qu'on peut gagner avec le Maroc ou avec l'Algérie comme l'Algérie
exactement aujourd'hui. Donc ça aussi ça peut donner certaines idées.
Mais c'est aussi Hamza un travail hein, permanent de lobbying hein, presque de Jamel Belmadi pour la sélection algérienne.
Ouais c'est vrai que Belmadi depuis qu'il est arrivé il cherche à renforcer cette sélection notamment par des binationaux. Alors il y a un double discours parce qu'il y a le discours qui va tenir en public où il dit moi je n'ai pas à convaincre tel ou tel joueur de venir, ça doit venir de sa part. Et puis il y a ce qui se passe.
Ça c'est le discours de Walid Regragui.
Et puis il y a ce qui se passe en off, en tout cas pour Jamel Belmadi, et c'est vrai que il a dit en conférence de presse il y a quelques jours avant le match face au Niger, Ait Nouri et Oussem Aouar, c'est un travail de 4 ans de discussion. Pour finalement les avoir aujourd'hui en sélection algérienne. Et effectivement, tu en parlais tout à l'heure, Daniel, par rapport à Walid Regragui. C'est ce qu'il disait notamment sur le cas Brahim Diaz. Il n'a pas envie de forcer la main. Le joueur, c'est à lui de venir. Je crois qu'il le disait dans l'after, le fait que le joueur doit faire lui-même le premier pas, qui est cette intention sincère. Parce que le jour où il faudra jouer une Coupe du Monde, alors ce sera facile pour le joueur de se motiver. Mais le jour où il faudra aller jouer un match de qualif au Botswana sous 45 degrés, peut-être que la motivation à ce moment-là, elle sera moindre. Donc effectivement, on le voit avec Walid Regragui, c'est en train de se développer. Et puis il y a cette fédération marocaine aussi qui a travaillé depuis de longues années en essayant de prendre des joueurs extrêmement jeunes, un travail de détection très très important.
Dans plusieurs clubs européens.
La fédération algérienne le fait aujourd'hui. Hein. Dans les 2005, dans les 2006, dans les 2004, dans les 2003, la fédération. Moi, j'ai des jeunes joueurs. Ils sont contactés par la fédération algérienne. Et il y en a certains qui ont rejoint la sélection en U20, en U19 pour y aller.
18, on se concentre sur les talents le plus précoce, l'âge de 14 ans.
Sincèrement, je trouve ça tout à fait logique. Quoi. Moi, je trouve que c'est vachement bien pour le football africain. Et puis, ça fait avancer le football là-bas. Même si au Maroc, ils ont quand même une formation qui est plutôt pas mal avec l'académie qu'ils ont créée là-bas. Walid, c'est mon ami, puisque j'ai joué avec lui. On se connaît depuis 30 ans. Je l'ai vu cet après-midi encore au téléphone. C'est vrai que Walid, il force pas les choses. Mais Walid, c'est un exemple, puisqu'il est allé lui aussi au Maroc, alors qu'il était un joueur... pas un top joueur pour aller en équipe de France, mais il a eu l'opportunité d'aller jouer au Maroc.
Alors dans ces choix prématurés en tout cas précoces, plus qu'avant de certains joueurs binationaux, je le disais, né en France, de rejoindre la sélection algérienne par exemple, en parlant avec des confrères algériens, on me dit, mais nous on pense qu'il y a un effet Benzema. Je m'explique, hein, c'est notamment un scout algérien.
Parce que moi j'aurais aimé terminer déjà sur les thèmes d'avant, et puis après...
Alors on va le faire dans un instant, tu vas
vite sur les différentes causes, parce que pour moi, ce que vous évoquez depuis le début, et les éléments qui conduisent de plus en plus de jeunes joueurs à choisir le pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents, c'est la conjonction de plein de choses différentes. En tout cas, moi, ce que je note aussi bien dans le discours de Belmadi, que ce soit totalement vrai, mais c'est en tout cas en partie vrai, et totalement vrai dans le discours de Walid Regragui, ce qu'il met en avant en premier, et ce que met également en premier en avant quand on parle avec des journalistes, ça m'est arrivé récemment de répondre à une interview pour une radio tunisienne, donc j'ai eu ce débat là-bas. Les Algériens sont un peu sur la même longueur d'onde, les Marocains. On met en avant l'attachement. Venez parce que votre cœur vous guide. Je trouve que c'est très bien de le faire comme ça, mais qu'on n'ait pas honte de notre côté aussi, de dire, si tu fais le choix de l'équipe de France, que ce ne soit pas par opportunité. Que tu le fasses parce que tu as réellement envie de porter le maillot bleu et parce que tu te sens...
Qu'on dise la même chose, que le cœur te porte vers le maillot bleu.
Je suis en train de te dire, ouais, Stéphane. Ça, ouais. Donc, je vois pas pourquoi Algériens, Tunisiens, Marocains...
Il faut pas avoir, honte de faire la démarche.
C'est ce que je suis... C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Eux mettent ça en avant en premier dans leur discours, aussi bien Greg Belmadi, faisons-le également. Si tu optes pour l'équipe de France, il faut que ce soit un choix du cœur et pas de l'opportunité. Longtemps ça l'a été, et ça c'est le deuxième point qui fait qu'il y a une évolution dans les mentalités.
Quelle opportunité par exemple, quand tu choisis la France ?
De remporter une Coupe du Monde.
Bah, la carrière.
C'était plus valorisant également.
La carrière, voilà, qui est valorisée et tout.
Mais on a un des plus célèbres binationaux en équipe de France qui a été champion du monde, hein, qui est David Trezeguet.
C'est le meilleur exemple.
Nous aussi, on en a bénéficié
et
un moment.
Qu'il n'y avait pas grand chose de français quand il fait le choix.
Il est juste né en France.
Il parlait à peine français.
Rappelez-vous du cas Gonzalo Higuaín. Il était en Argentine parce qu'il était né à Brest, on le rappelle. Et Raymond Domenech, à l'époque, voulait le convoquer. Alors qu'il ne parlait pas français, il n'a jamais mis les pieds en France.
Et j'avoue que je comprends quand en Italie, le cas du jeune Argentin qui vient d'arriver pose problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi?
Il parle pas italien.
Pourquoi tu te sens italien? Tu parles pas italien? Et je sais qu'en Algérie, il y a eu des problèmes là-dessus. Le mec, il parle pas arabe, il connaît pas l'hymne et tout. Je sais qu'à un moment, c'était plus vers 2010 que ça avait posé problème.
Ludovic Obraniak, il y a des problèmes avec la Pologne comme ça aussi.
Oui, mais moi, je trouve que c'est tout à fait normal. On ne doit pas avoir honte de demander à un joueur un attachement au moment de représenter l'équipe nationale.
En fait, le critère sportif, il ne doit pas être déterminant. C'est vrai que là, on est plutôt focalisé sur l'aspect joueur, mais aussi l'aspect fédération. Et le travail
J'allais y venir. Donc, il y a les autres éléments. Il y a le travail de la fédération. Parce que pendant longtemps, il y a des joueurs africains qui rechignaient, et on peut les comprendre. Ils disaient, qu'est-ce que je vais aller faire dans ma sélection africaine? C'est mal organisé, on joue sur des terrains de merde, il n'y a pas l'oseille. Après tout, tu pouvais entendre ces arguments-là, qui fait que de toute façon, il n'y avait pas de vraie carrière internationale à mener. Les choses ont beaucoup évolué. Regarder une CAN pendant des années, c'était bien plus pénible qu'aujourd'hui, c'est devenu un vrai spectacle, le niveau a augmenté, tu nous le dis à chaque fois.
Ouais, mais il y a une contrepartie.
C'est mieux.
Quand tu parles de ces joueurs-là, regarde aujourd'hui le Ghana, par exemple. Le cas qui était très... Enfin, moi, je le vivais très mal, c'est Kevin Prince-Boateng dans les années 2010.
Bien sûr, aujourd'hui, on
a un nouveau cas.
Bien sûr.
Moi, ça m'a fait mal de le voir en sélection ghanéenne à la dernière Coupe du Monde. C'est Iñaki Williams. Iñaki Williams, c'est un joueur qui, très très jeune, a performé avec Bilbao.
Il a un frère en Espagne.
Exactement. À l'âge de 18-19 ans, il commence à performer avec Bilbao. Lui, tout au long de sa carrière, il dit c'est l'Espagne ou rien. À 28 ans, le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde. Il n'a aucun avenir avec l'Espagne. Il fait le choix d'aller jouer avec l'Espagne.
C'est le choix d'opportunisme.
Et ça, c'est extrêmement agaçant.
Oui, bien sûr.
Effectivement, t'as Nico Williams. Maintenant, on va parler du côté fédération. Est-ce que la fédération espagnole ou est-ce que Luis Enrique aurait convoqué Nico Williams, même s'il était performant avec Bilbao, pour la Coupe du Monde, s'il n'avait pas cette double nationalité?
Mais cette histoire d'attachement, c'est à la base de tous nos débats foot, que ce soit pour le club, que ce soit, et a fortiori pour l'équipe nationale. C'est ce qu'on aime dans le football, c'est l'identité. C'est tu te sens parisien, tu vas pas jouer à l'OM, tu te sens milanais, tu joues pas. Enfin, c'est le vieux débat du foot.
Faut pas renier ses origines ni sa culture.
Absolument pas.
Donc, faut pas en profiter non plus.
On parle d'Amin Gouiri au départ. Mm. Bon, Amin Gouiri, il a été en équipe de France, jeune.
Et tous les joueurs que j'ai cités, tous les joueurs que j'ai cités sont passés
si
en 18-19
cette semaine, ils jouent avec les espoirs.
Oui, mais justement, c'est pour ça en Algérie, c'est très bien.
Mais
ça.
Je suis absolument d'accord, c'est qu'il ne faut absolument pas renier. Et moi, dans tout ce débat, moi, je le mets toujours en avant parce que le discours qui avait été, à mon sens, dans ces dernières années, plus intelligent, c'était celui d'Abdou Diallo, l'ancien joueur du PSG,
joueur très intelligent
au Sénégal. Interview qui était nickel, qui avait dit. Moi, et en plus, il l'avouait et sans honte, et il n'y avait pas de honte à avoir. J'ai bien vu que, de toute façon, j'avais deux cultures, j'avais deux nationalités, je me sentais autant français que sénégalais, peut-être même un petit peu plus français, mais de toute façon, j'aurais pas pu faire carrière en équipe de France. Et dans ma vie, jouer une Coupe du Monde ou avoir une carrière internationale, c'est quelque chose que j'estimais bien pour moi, et cette expérience, le Sénégal pouvait me l'offrir.
Il dit pas que ça. Parce que effectivement,
j'aimais déjà bien cette partie-là.
Mais effectivement, et c'est là où en fait où il faut pas être trop dur avec les joueurs qui prennent le choix à 22, 23 ans de choisir la sélection africaine. Je parle pas des Iñaki Williams qui à 28 ans décide, mais je parle des autres. C'est que Abdou Diallo, lui, ce qu'il explique dans cette ITV au Sherman, il dit tout au long de sa jeune carrière, il était en équipe de France U17, U18, oui, U19, c'est vrai. Du coup, lui, il n'avait pas de vacances puisqu'il avait chaque année en été des compétitions internationales. Conséquence, il ne connaissait pas exactement. Et un jour, il devait disputer l'Euro Espoir. Sylvain Ripoll devait le convoquer.
Et lui avait une intervention au Sénégal,
il avait une intervention chirurgicale qui devait l'empêcher de faire la prépa. Sylvain Ripoll lui dit, si tu fais pas la prépa, tu viens pas à l'Euro. Lui, il a pris la décision de se faire opérer. Résultat, pas d'Euro Espoir avec l'équipe de France. Il a pour la première fois de sa vie des vacances. Il va au Sénégal. Il découvre le pays, le Sénégal.
Et il découvre
et
le pays,
ça touche intimement.
Exactement. Absolument.
Et il veut défendre les couleurs du Sénégal.
C'est très juste. T'as bien fait d'ajouter cette partie-là.
On va faire une pause, les gars.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec leur sélection nationale. Donc, de l'un de leurs deux pays, sans avoir jamais vu le deuxième pays.
Oui.
Il y en a beaucoup.
Ouais. Beaucoup, beaucoup.
On fait une pause, on revient dans un instant. D'abord le direct, c'est important, la prolongation, quart de finale, retour de Ligue des Champions, Chelsea-Lyon. Anthony Reich.
104e minute de jeu dans cette rencontre et toujours 1-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Ce but à la 77e de Vanessa Gilles. Première période de prolongation plutôt dominée par les Lyonnaises, mais qui ne se sont pas procurées de vraies situations dangereuses et n'ont pas mis en danger Berger, la gardienne de Chelsea. 1-0 pour Lyon, 104e minute.
L'after revient dans quelques secondes avec Stéphane Guy, Daniel Riolo, Franck Bellassène et Hamza Rahmani. À tout de suite sur RMC.